Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix96.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK.
Ouvrez vos oreilles!
If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 and it's all in French with Aline Bavister and Elise Lines. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Et ce soir, on parle Feng Shui avec notre invitée Céline Riazi. Bonsoir Céline.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir au studio de Mix 92.6. Alors Céline, tu as créé Maison Surya, tu vas nous en parler un peu plus tard. Et tu es à Londres depuis peu. Alors qu'est-ce qui t'a amené à Londres et qu'est-ce qui t'a amené au Feng Shui, puisqu'il me semble que tu étais juriste au départ.
Exactement. Donc en fait, avant, j'étais juriste. J'ai fait des études de droit pendant 5 ans et j'ai exercé ce métier pendant 5 ans. Mais je sentais au fond de moi que je n'étais pas à ma juste place. Et j'avais beaucoup de blocages dans mon métier, un manager toxique, difficulté à évoluer. Et c'était en fait des signes qui voulaient me montrer que j'étais pas à ma place, mais j'avais du mal à les entendre. Et un jour, mon mari me dit « Oh, j'ai une opportunité à Londres, qu'est-ce qu'on fait ?» Et Londres nous appelait un peu depuis un moment et on s'est dit « Ah, mais c'est le moment idéal pour partir. » Et c'est là où c'est intervenu à un moment donné où j'étais dans une démarche de développement personnel, d'introspection, retour vers moi-même. Parce que je me suis construite depuis petite en me tournant vers les autres et sans trop me tourner vers moi-même. Donc finalement, je ne savais pas trop qui j'étais, pourquoi j'étais ici, quel était mon chemin de vie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé peu à peu la route du Feng Shui et de l'Interior Design.
Donc c'est une conquête personnelle.
Exactement.
Qui t'a amené au Feng Shui.
C'est ça.
Fantastique. Fantastique. Alors, bon, on a tous des idées de ce qu'est le Feng Shui, mais puisque toi, tu es experte, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Déjà, est-ce qu'on le prononce bien ? Est-ce que c'est Feng Shui ou est-ce que c'est autre chose ?
Oui, c'est très bien prononcé, Feng Shui. Alors, c'est une discipline chinoise qui résulte de plus de 5000 ans d'observation par le peuple chinois. D'observation, de calcul, et la Chine s'est construite peu à peu avec le Feng Shui. Les empereurs à l'époque construisaient leur village, leur palais, livraient les batailles en fonction des règles Feng Shui. Et c'était très important en fait ces règles-là pour finalement avoir une bonne fortune, une bonne santé, une bonne longévité. Ça permettait donc d'avoir une bonne descendance et donc de faire D'accord. développer le pays. Et peu à peu, le Feng Shui s'est développé et est parti au-delà des frontières de la Chine et arrivé jusqu'à l'Europe, jusqu'au continent américain. Et donc le Feng Shui, c'est un art qui permet de vivre en harmonie avec la nature et de vivre pleinement, en pleine conscience et de comprendre qu'en fait, notre environnement a un impact sur nous en tant qu'être humain. Sur notre santé, sur notre travail, sur nos relations. Et notre maison a une énergie à elle-même. Elle raconte une histoire. Et le Feng Shui, c'est un peu comme l'acupuncture de la maison.
Ah, c'est un très beau, très, très belle image, ça, très belle métaphore.
Voilà, ouais. Parce que ça nous permet de comprendre notre maison, comprendre l'histoire qu'on va vivre avec notre maison et d'intervenir en appuyant sur certains méridiens, un peu comme l'acupuncture, pour rééquilibrer l'énergie de la maison, afin de rééquilibrer notre propre énergie. Parce que voilà, on est directement impacté, influencé par notre maison. Donc en prenant soin de notre intérieur, on prend soin de nous-mêmes, en fait.
Wow. Ça paraît tout à fait logique, mais bon.
Ben oui,
c'est quand même un art. Alors, est-ce qu'il y a des grands principes ? Tu parles d'énergie, donc d'énergie positive, j'imagine, pour que tout soit en harmonie. Quels sont les grands principes du Feng Shui alors pour avoir cette harmonie?
Alors le plus grand principe pour le Feng Shui, c'est l'art de manier l'énergie, donc l'énergie qu'on appelle le Qi. Donc voilà, le Feng Shui, c'est un outil qui permet de manier et de maîtriser l'énergie dans la maison afin de vivre en harmonie avec cette énergie et d'aider à la circulation de l'énergie et de faire en sorte de capter toutes les bonnes énergies et d'éliminer les mauvaises.
D'accord, donc c'est plus que avoir juste une maison bien rangée.
Voilà, exactement.
C'est plus que ça.
Profond, oui. Et il existe plusieurs techniques en Feng Shui traditionnel. Et donc là, c'est la technique de l'environnement, l'art de manier l'énergie. On a aussi une technique Pad Chai. C'est le fait d'établir une carte énergétique de notre maison et de voir comment, en fait, dans chaque pièce de la maison, comment se trouve l'énergie. Quel est l'état d'énergie? Est-ce qu'elle nous apporte de bonnes relations? Est-ce qu'elle nous apporte une bonne santé? Ou au contraire, est-ce qu'elle nous apporte des blocages, des problèmes de santé ou de relations, ou même des blocages dans des opportunités professionnelles?
D'accord.
Donc ça nous permet de lire la maison. Et on a aussi une technique des étoiles volantes qui vient en fait du ciel. C'est les énergies qui viennent du ciel et comment elles arrivent dans notre maison.
Uh-huh.
Et le Feng Shui, ça permet en fait d'étudier toutes ces techniques-là qu'on met les unes sur les autres pour finalement comprendre notre maison et derrière faire en sorte d'avoir toutes les bonnes énergies.
Wow. Et donc, en parlant d'énergie, alors je fais un petit soubresaut par rapport au Reiki, qui bien sûr, cette fois, parle d'énergie, mais sur notre corps. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre l'énergie, la force universelle qui est utilisée pour le Reiki et l'énergie du Feng Shui? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que je suis en plein délire
Non, pas du tout, parce qu'en fait, on se rend compte que... la règle d'or, c'est que tout est lié et tout est énergie. Et le Feng Shui, c'est l'art de manier l'énergie dans notre intérieur. Mais il existe d'autres techniques pour manier l'énergie, mais donc directement sur notre corps, comme le yoga, le reiki. Et le Feng Shui, ça permet de faire en sorte que notre maison nous soutient dans notre vie, dans les énergies. Mais c'est important de comprendre que derrière, on a quand même besoin d'agir en tant qu'homme. Donc notre maison, elle est là pour nous soutenir. Donc quand on a, par exemple, on tombe malade, notre maison est là pour nous soutenir et nous aider à guérir au plus vite. Voilà, c'est là où du coup tous ces arts d'énergie se complémentent, parce que l'idée c'est de complémenter l'énergie de l'homme avec l'énergie de la maison.
D'accord. D'accord. Alors, avec le confinement, on s'est pas mal tourné sur nous-mêmes, notre environnement. Hein. On est resté quand même enfermé chez nous pendant de nombreux mois. Ça a porté un peu un accent sur le bien-être et l'importance d'être bien dans son espace, soit son espace de vie ou de travail. Est-ce que tu as observé un regain d'intérêt pour le Feng Shui suite à cette période un petit peu...
Extraordinaire,
oui.
Oui, complètement. En fait, il y a eu cette prise de conscience au moment du confinement qu'il était important de se sentir bien chez soi. En fait, on est passé d'un habitat de passage à un habitat où on prend du temps chez nous. Et c'est là où les personnes se sont rendues compte que c'était important de se sentir bien chez soi parce que, en fait, c'est important de passer du temps chez soi pour se ressourcer. Et avant, on avait une vie assez, assez rapide. Notre maison était notre lieu de passage.
C'est vrai.
Et avec le confinement, tout le monde s'est rendu compte que finalement, notre maison n'était peut-être pas adaptée parfois pour se ressourcer. Et il y a eu cette véritable prise de conscience. Et en plus de ça, on a de plus en plus de personnes qui se mettent aussi à leur compte, qui travaillent depuis chez eux. Donc il y a eu plein d'événements qui ont fait que les personnes se sont rendues compte qu'il est très important de se sentir bien chez soi.
Au point de vue des tendances actuelles, est-ce que tu observes certaines tendances qui se sont développées justement suite au confinement et en accord ou en harmonie avec le Feng Shui?
Oui, Complètement. Donc déjà, la décoration d'intérieur, tout ce qui est l'interior design, ça a été une discipline où les personnes ont demandé à rénover leur intérieur. Mm-hmm. Le feng shui est devenu de plus en plus connu, notamment a connu une sorte de boost avec le confinement. Et aussi tout ce qui est lié à finalement la spiritualité, le yoga, les retraites spirituelles, les retraites de yoga. Donc les personnes se sont rendues compte qu'il est important de se sentir bien, d'être en harmonie avec soi-même et avec son environnement et la nature. Mmh. Et voilà, donc c'est quelque chose qui s'est vu, oui.
Tu nous as dit en début d'entretien que le feng shui venait de Chine. C'est relativement, on va dire, nouveau ou récent en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc. Est-ce que le feng shui te paraît plus adapté à la culture chinoise qu'à la culture européenne? Et est-ce que la version qu'on a du feng shui ici est un peu, on va dire, adaptée ou cuisinée à la sauce européenne? Ou est-ce que c'est une version vraie? C'est une vaste question, mais...
C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il existe le feng shui occidental, qui est le plus connu aujourd'hui, qui a été effectivement adapté donc à la pensée occidentale et simplifié. Mais moi, je pratique le feng shui traditionnel, qui vient de Chine, et qui est l'origine pure du feng shui, et qui est finalement vérifié, c'est des calculs qui ont été faits, et qui est personnalisé finalement à chaque personne qui vit dans l'habitat. Parce qu'en fait, notre début d'expertise prend en compte la date de naissance des habitants. Et de là, on calcule finalement quelles sont les bonnes orientations pour chaque personne qui vit dans cette maison ou dans cet appartement. Voilà, pour savoir quelle est l'orientation, la meilleure orientation pour le lit ou pour le canapé ou pour travailler. Là où le feng shui occidental a des règles beaucoup plus simples parce qu'ils ont voulu simplifier. Donc voilà, il y a deux écoles.
D'accord. Donc, je suis fascinée. J'avais aucune idée. Que la date de naissance de la personne, donc vraiment son être profond, voilà, puisse influencer les règles du feng shui, ou comment appliquer les règles du feng shui.
C'est ça, parce qu'en fait, finalement, avec le feng shui, on apprend à connaître l'identité de notre maison. Mm-hmm. Et pour la faire matcher avec nous, on a besoin de la faire matcher avec notre propre identité. Et donc, c'est pour ça que c'est important de partir sur notre date de naissance, qui est le fondement de notre identité.
Oui, ça m'entraîne sur une question que j'avais pour toi, c'était comment on peut appliquer des règles de feng shui dans une maison avec des enfants en bas âge, parce que c'est tout le temps le bazar, il y a des jouets partout. Dans mon esprit, moi, ça contradicte un petit peu, tu vois, le stéréotype de la maison plutôt blanche, avec des lignes très épurées, et puis t'as le chien à roulettes qui passe, les duplos partout, les boîtes de Lego. Donc on peut appliquer des règles de feng shui avec des enfants à la maison?
Oui, alors ça dépend à partir de quel âge, parce que les enfants, en fait, on dit qu'ils sont très yang. Là où les personnes âgées sont très yin.
Ah, d'accord.
Et donc, on adapte en fait nos règles par rapport aux enfants. Donc, comment on va intervenir? Par exemple, un nourrisson dans le lit, il va bouger. Donc, oui, finalement, comment on va orienter le lit va pas forcément avoir trop d'impact à ce stade-là de la vie. Mais on applique certaines règles pour les enfants. Et ça devient un peu plus concret pour eux à partir d'un certain âge.
D'accord.
Notamment par rapport à l'apprentissage. Voilà, on va travailler sur le secteur de l'apprentissage, les aider à bien construire leur espace de travail pour faire leurs devoirs. Voilà.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ce n'est pas juste une visite ou une transformation qui va durer, je sais pas, quelques semaines ou plusieurs mois. C'est quelque chose qui va que tu gardes sur la durée, en
oui,
fait.
Exactement.
Il faut y travailler tout le temps.
Voilà, tout le temps. Et on joue avec les cinq éléments. Donc, c'est important pour nous de travailler avec les couleurs, les matières. Et c'est comme ça qu'on rééquilibre l'énergie. C'est à travers ces cinq éléments-là. Et donc, finalement, une maison qui a de la couleur, c'est une maison qui a de la vie.
Ah, voilà. Ce qui va contre tout le, tous les conseils de, voilà. de rénovation de, qu'on a eu en Angleterre, de tout peindre en magnolia.
Ah non. Non, chaque couleur a finalement un élément, est rattaché à un élément, donc que ce soit l'eau, le feu, le métal. Et donc, c'est important de choisir la bonne couleur pour chaque pièce. Et notamment pour les enfants, si on met par exemple du rose ou du rouge, c'est rattaché à l'élément feu.
Oui, c'est voilà, peut-être pas le mieux pas dans la chambre. J'ai très très peur de rentrer chez moi maintenant.
Non, il faut pas. En fait, en feng shui, tant qu'on se sent bien, c'est que c'est bien. Enfin, c'est la règle. On change quand ça ne va pas.
Ça va être ma règle.
Voilà.
On se retrouve dans un tout petit instant. Ce soir, on parle feng shui avec notre invitée Céline Riazi. C'était passionnant en première partie. Elle nous a donné les grands principes du feng shui. Elle nous a expliqué que finalement, c'était beaucoup plus scientifique probablement que ce à quoi on s'attendait. Alors, on a reçu énormément de questions de nos auditrices, mais avant de les passer en revue et d'y répondre, Céline, j'aimerais que tu nous dises ce que tu dirais aux sceptiques. Les personnes qui disent, mais alors c'est vraiment n'importe quoi, le feng shui c'est la dernière mode, ça sert à rien, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu leur dirais finalement ?
Eh bien, je leur dirais, laissez-moi venir chez vous, faire une analyse feng shui et vous verrez. On verra si vous me direz la même chose après.
Très bon conseil.
Très, très bonne réponse. Parce que comme on a pu le voir, il y a quand même énormément de travail derrière le feng shui. Alors, on va maintenant passer aux questions des auditeurs. Ça ne te surprendra peut-être pas que ce sont les auditrices qui ont été particulièrement enthousiastes dans leurs questions. Alors, la première question de Amber, c'est de savoir s'il faut être spirituel et être branché sur les énergies pour apprécier le feng shui. Est-ce que c'est le cas de tes clients, par exemple ?
Alors, c'est sûr que ça aide. Généralement, les personnes qui sont intéressées par le feng shui, c'est les personnes qui ont cette connexion en fait avec les énergies, qui aiment vivre en harmonie avec la nature. Après, c'est pas obligatoire. On peut être ouvert. En fait, tout dépend de l'état d'esprit de la personne. Une personne qui fait du yoga peut être ouverte au feng shui parce que finalement, il y a beaucoup de principes qui se retrouvent. L'idée, c'est voilà d'être dans cette optique, d'être en harmonie avec nous-mêmes, dans le bien-être, de se sentir bien chez soi et voilà.
D'accord. Alors, question de Jane. Quelle est la meilleure position du point de vue de l'énergie pour mettre son bureau ? Si le seul endroit pour le mettre est devant la fenêtre et qu'on en la porte derrière son dos. Donc très précis quand même, hein,
oui,
Jane,
ouais.
Merci.
C'est très précis. Alors en fait, ça on peut le savoir que en partant de la date de naissance.
D'accord.
Pour connaître la meilleure orientation qui est adaptée à cette personne. Par contre, un des grands principes en feng shui, c'est qu'on n'aime pas avoir la porte dans le dos.
Mm-hmm.
On n'aime pas parce qu'en fait, l'énergie arrive par la porte. Et ça surprend, c'est une énergie qui arrive directement de manière assez agressive dans le dos. Et ça c'est pas quelque chose qu'on apprécie en feng shui. Et dans ce cas de figure-là, ce que ça apporte, en fait, c'est de la déconcentration au travail. Je ne sais pas si, du coup, cette personne travaille souvent sur ce bureau-là.
Mm-hmm.
Difficile à avancer dans le travail, on n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait.
D'accord.
Voilà.
Donc, Jane, il va falloir d'abord donner sa date de naissance.
Voilà. Voilà. Mais si je peux donner un conseil en attendant d'avoir la date de naissance, c'est d'orienter le bureau de sorte d'avoir peut-être à droite la fenêtre et à gauche le bureau, la porte, pardon, et au moins de ne pas avoir la porte dans le dos.
D'accord, donc c'est ça qui est vraiment le plus enquiquinant dans l'affaire, c'est d'avoir la porte dans le dos.
Voilà.
D'accord. D'accord. Question de Kachia. Elle a un miroir dans l'entrée qui reflète la porte des toilettes. Est-ce un problème ? Faut-il faire attention à ce qui se reflète ? dans un miroir. Super question quand
oui.
même.
Oui, c'est vrai que les miroirs, c'est une grande question en Feng Shui. Donc le miroir, c'est vrai que c'est un élément important. Ça peut être un atout comme finalement parfois le contraire. Le tout, c'est de savoir comment le positionner. C'est pas mauvais d'avoir un miroir dans l'entrée ou même dans une chambre. Tout dépend de la taille du miroir et de comment il est orienté. Par exemple, avoir un miroir qui face à la porte d'entrée, ouais. c'est très mauvais parce que finalement l'énergie de la maison arrive par la porte d'entrée. Donc l'entrée, c'est ce qu'on appelle la bouche du chi, la bouche de l'énergie, parce que c'est par là où arrive toute l'énergie dans la maison. Et finalement, dès qu'elle arrive, ce qu'elle voit en premier, c'est le miroir. Et donc elle rebondit et elle ressort.
D'accord. Donc en fait, d'avoir un miroir face à sa porte d'entrée, ça fait immédiatement ressortir l'énergie qui rentre dans la maison.
Exactement.
Waouh, c'est voilà. fascinant.
Donc finalement, tout dépend ce que reflète ce miroir. Alors là, je ne sais pas où est orientée les toilettes pour ce cas précis, mais voilà, tout dépend de comment est orienté le miroir. Et les toilettes aussi, on n'aime pas avoir les toilettes face à la porte d'entrée, parce que les toilettes et les salles de bain, ce sont des pièces où on n'intervient pas en feng shui, parce que c'est des pièces qui... comment dire, ce sont des canalisations et ça élimine l'énergie. L'énergie fuit.
D'accord.
Et donc avoir
donc quand on tire la chasse, en gros, l'énergie part.
Voilà. Donc en fait, si on a la porte des toilettes en face de la porte d'entrée, bah c'est comme le miroir. Finalement, l'énergie arrive par la porte d'entrée, hop, s'enfuit par les toilettes.
D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Donc en fait, ça dépend dans ce cas précis, pour cette question, ça dépend un peu d'où sont les toilettes par rapport à la porte d'entrée.
Voilà.
Donc le fait qu'elle soit en face d'un miroir, ce n'est pas forcément... Non. dramatique, mais si en plus c'est en face de la porte d'entrée, là c'est...
Oui.
D'accord.
ça dépend de tous ces paramètres-là. Et les salles de bain et les toilettes, finalement, quand on a un plan de construction, un projet de rénovation, c'est chouette parce qu'en fait, on peut les positionner dans des secteurs de l'habitat où l'énergie est mauvaise. D'accord. Et ça transforme l'énergie. D'accord. Ça la rend positive. Donc tout dépend du projet.
Fantastique, fantastique. Autre question, cette fois de Violaine. Est-ce un problème d'avoir un canapé qui est dos à une baie vitrée?
Oui.
Ah, voilà, Violaine, tu as ta réponse. La réponse oui. est oui. Oui, alors peut-être nous dire un petit peu pourquoi.
Oui, alors en fait, l'énergie arrive par la porte et les fenêtres. Et donc, en fait, avoir le canapé dos à une fenêtre, en fait, en Feng Shui, il y a beaucoup d'images pour expliquer ce que ça représente. C'est comme si on allait tomber par derrière. Comme si on allait tomber par derrière. Et donc, l'énergie, en fait, tombe par derrière. Et quand on s'assoit sur un canapé, finalement, on ne se ressource pas en énergie parce que notre énergie s'en va vers la fenêtre.
D'accord.
Voilà. Et donc, un conseil, c'est soit de mettre des stickers à mi-hauteur de la baie vitrée, soit des plantes à cet endroit-là, derrière le canapé.
D'accord. Alors, en parlant de plantes, très bien, tu me tends la perche, Céline, parce que ma prochaine question, qui est également de Jane, concerne les plantes. Elle dit « J'aime les cactus, mais est-ce un problème d'avoir des choses comme ça avec des pics ou des épines par rapport à l'harmonie de la maison ? Comment puis-je concilier mon amour des deux ?» Je trouve ça magnifique comme question.
C'est une super question parce que le cactus, c'est une des questions qui revient le plus souvent, comme avec le miroir. Le cactus, c'est une plante, donc finalement, c'est quelque chose de positif en feng shui. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Je conseillerais juste de ne pas le mettre sur la table de chevet. Voilà.
D'accord. Et est-ce que ça marche aussi avec les plantes en plastique ?
Alors, non.
Non,
non.
D'accord.
On n'aime pas les plantes en plastique en feng shui.
Alors, Élise parle de plantes en plastique. Bon, je pense qu'elle ne m'en voudra pas de dire qu'elle dit ça parce que les plantes, elle les tue, Élise. Elle n'a
ah
pas
oui.
la main verte. Elle a la main
j'ai pas la
assassine.
Main verte à l'intérieur. J'ai la main verte à l'extérieur.
Bah voilà.
Pas avec les plantes d'intérieur.
En fait, les plantes d'intérieur, une plante vit. Et donc, elle diffuse de l'énergie, ce qu'elle diffuse finalement de l'oxygène. Et une plante artificielle, c'est un objet qui ne vit pas, donc ça n'apporte pas d'énergie en feng shui.
Bon, je rajoute une petite croix sur la liste des choses qu'il faut que je change.
Exactement. Exactement. Autre question cette fois de Christelle. Elle pose la question par rapport à ce qu'on appelle ici ensuite. Alors, je ne sais pas, je dois le dire en français quel est l'équivalent, mais disons que c'est quand on a une salle de bain qui est attenante à sa chambre. Donc, il y a une porte, mais est-ce que c'est un problème d'avoir une salle de bain attenante à son espace de chambre ?
Alors, en fait, les salles de bain, donc... En feng shui, on n'aime pas trop ça. Mmh. Donc, si la salle de bain est attenante et qu'il y a une porte, ça ne pose pas de problème. Mmh. Sauf si la tête de lit repose sur un mur ou derrière ce mur-là, on a la salle de bain. Où on a directement le lavabo ou les toilettes.
D'accord, d'accord. Donc, voilà. Même si c'est de l'autre côté de la cloison, oui. En fait, c'est un problème.
Oui,
d'accord.
Parce que en fait, quand on dort, c'est très important de savoir ce qu'on a derrière notre tête. Et finalement, si dans le mur parallèle, on a les toilettes, par exemple, bah, en fait, toute l'énergie qui doit arriver par notre tête, finalement, elle va dans les toilettes, elle s'enfuit. Ah. Donc, finalement, on ne dort pas bien. Ou alors on va dormir toute une nuit complète, mais on va se réveiller fatigué.
D'accord.
Voilà. Et le pire, c'est d'avoir une salle de bain dans la chambre.
C'est la mode en ce moment, hein, dans les hôtels, effectivement.
Ah oui. Ouais. C'est très beau en interior design, mm-hmm. mais finalement en feng shui, c'est très mauvais. Et c'est pour ça que j'aime bien mixer ces deux expertises-là pour vraiment apporter des vraies solutions, même en interior design, et rendre des pièces belles, mais bonnes en énergie. Mais
d'accord, oui, donc concilier les deux. Donc si on veut limiter l'impact d'avoir une salle de bain attenante, c'est par rapport à la position du lit, en fait.
Exactement.
D'accord, d'accord. Autre question de Amber. Est-ce qu'il y a une différence dans le design des maisons ou des appartements entre la France et l'Angleterre? Alors, des différences qui peuvent être positives ou négatives, bien sûr, avec le prisme du feng shui.
Oui.
Qu'est-ce que tu as remarqué?
Alors, j'ai remarqué deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de sous-sol, mm-hmm. où les Anglais vivent, en fait. Oui. Soit c'est des appartements qui sont en moins un.
Basement, oui.
Basement
flat.
Voilà. Ouais. Soit c'est des maisons où ils ont carrément au basement la family room.
C'est ça, ouais.
Etc. Et c'est vrai que bon, c'est pas le mieux en feng shui. Surtout, en fait, si c'est une maison complète, c'est pas grave.
Oui.
Mais si c'est un basement flat, là, c'est plus embêtant parce que la lumière a des difficultés pour y accéder, et finalement l'énergie doit descendre pour entrer dans l'appartement. Et le deuxième aspect, c'est la lumière.
Ouais.
En Angleterre, les maisons ont des petites fenêtres, donc elles sont un peu moins lumineuses, et la lumière, c'est très important en feng shui parce que ça apporte le yang. Et donc ça fait qu'on a des maisons un peu plus yin en Angleterre.
D'accord.
Donc du coup des maisons où c'est un peu plus difficile d'être dans l'action, où tout va un peu plus doucement, et donc l'enjeu, c'est d'apporter plus de yang dans ces maisons là
D'accord, donc plus on a de lumière, plus on a d'énergie.
Exactement.
C'est mal parti pour cet hiver, hein, avec le jour qui tombe à 16h. C'est très mal parti. On pourrait en parler, mais toute la soirée et toute la nuit. Il y avait une autre question par rapport au coût du feng shui. Alors, le coût de la consultation, mais aussi les coûts, on va dire, accessoires. Si par exemple un consultant en feng shui nous dit que ce meuble-là ne va pas, est-ce qu'il faut être milliardaire pour pouvoir oui. profiter du feng shui, hein?
Est-ce qu'on peut faire du feng shui avec ces meubles?
Oui, alors en fait, c'est vrai que le feng shui, c'est un budget. Maintenant, ça dépend en fait de la superficie de la maison, du nombre d'étages et du nombre d'habitants, et aussi de la forme de la maison. Une maison qui est rectangle, c'est pas la même expertise qu'une maison qui est un peu irrégulière dans la forme. Voilà, donc tout dépend de ce budget-là, et tout dépend, donc il y a plusieurs, il peut y avoir une simple consultation en ligne pour donner des conseils sur une pièce, ou on peut faire carrément une grande expertise, une expertise complète de la maison, ou alors allier le feng shui avec un projet de rénovation de interior design, parce que derrière, on a envie de vraiment, par exemple, appliquer tous les conseils et de casser un mur s'il le faut, déplacer une pièce s'il le faut. Et donc dans les meubles, on peut utiliser les mêmes meubles. Après, il y a des meubles peut-être que je peux déconseiller. Donc tout ce qui est pointu en feng shui, on n'aime pas trop.
D'accord.
Notamment les tables de chevet. On préconise des tables de chevet arrondies. Comme ça, ça apporte pas une énergie agressive juste à côté de notre tête quand on dort.
D'accord.
Voilà. Mais sinon, globalement, on fait avec nos propres meubles. D'accord. Il n'y a pas de souci sur ça.
Je rajoute une croix sur ma feuille.
Et voilà, ouais, Ellie, ça va être le redesign complet. Et donc, Céline, toi, tu as donc fondé Maison Surya. Surya veut dire lumière.
Exactement.
Et tu es donc consultante en Feng Shui.
Exactement.
Si nos auditeurs, après t'avoir écouté nous expliquer de manière tellement intéressante tous les principes du Feng Shui, s'ils veulent te contacter, quels sont les moyens de le faire?
Donc il y a plusieurs moyens. Donc ça peut être sur mon site internet, donc maisonsurya.com. Donc Surya, c'est S-U-R-Y-A. Mmh. Sinon, par téléphone, il y a mon numéro sur mon site internet.
Très bien.
Et aussi par mail directement, qui, pareil, figure sur mon site internet. Ou sur Instagram aussi.
D'accord. Ton adresse Instagram, c'est Maison Surya aussi?
Maison Surya, oui.
Parfait. Fantastique. Eh bien, merci infiniment d'être passée au studio de Bouche à Oreille. C'était super intéressant. Élise va aller pianoter pour commander de nouveaux meubles, je pense. On te souhaite une très, très bonne continuation. Merci encore.
Merci à vous de m'avoir reçue.
Au revoir.
Au revoir.